L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Cette émission est la seconde émission en compagnie de l'écrivaine Mona Azam. Nous avons entendu son attachement au continent africain, son implication dans la transmission de la littérature et la culture africaine auprès de ses élèves. Et cette émission est centrée sur l'écriture poétique et romanesque de Mona Azam. Bonjour Marie-Claude Siakezak.
Et bonjour Guylaine, vous ici, sur la route de l'Afrique, comme c'est étonnant.
Bonjour. Et bonjour Mona Azam. Alors, nous allons commencer par évoquer votre roman qui est paru en septembre 2021, qui a pour titre Amine.
Janvier 2022.
Ah, d'accord, le copyright indique septembre 2021, mais voilà, il est vraiment été dans les librairies en janvier 2022.
Tout à fait.
On ne peut pas se fier à ce qui est écrit dans les copyrights.
Oui, faut préciser. C'est le dépôt légal, je pense.
C'est aux éditions La Trace. Et Amine raconte l'histoire d'un enfant d'environ 12 ans qui débarque dans une classe du collège Camille Claudel d'Annecy. Une histoire construite en flashback, un récit qui commence en 2015, soit 20 ans après une histoire qui s'est déroulée au collège Camille Claudel d'Annecy, donc en 1995. Un récit porté par une narratrice qui compile les voix de Maya, Amine, le principal du collège, Théo, Elsa. Les derniers mots en lettres d'écolier indiquent « rédaction » sous un texte « rédaction par Amine T. classe 6e B, juin 1993 ». Juin 1996, texte retrouvé dans le coffre de Madame Maya, qui veulent attester la véracité de l'histoire. Est-ce le cas, Mona Azam ?
Que c'est une histoire vraie ?
Oui.
Certainement, je crois que tous les enseignants et les enseignantes ont croisé au moins une fois dans leur vie des petits Amines et se sont retrouvés face à des difficultés parce que le système scolaire, malheureusement, n'a pas été conçu pour accueillir ces enfants différents, non pas par la couleur de leur peau, non pas par leurs origines, mais différents surtout au niveau de la langue, parce que la langue reste le premier lien que l'on construit avec un pays. Et quand on ne maîtrise pas la langue d'un pays, on est en quelque sorte apatride, deux fois.
Et vous dites, Amine ne maîtrisait pas notre langue, c'était son seul handicap, le plus tragique aussi.
Oui, c'est une tragédie. Parce qu'exister, c'est communiquer avec les autres. C'est construire, se construire aussi avec et grâce aux autres. Et quand on est incapable de communiquer dans la même langue, avec les mêmes codes, on n'a pas les valeurs non plus. On est complètement démunis et je pense que c'est une mort en soi de ne pas pouvoir communiquer avec autrui. C'est un isolement et c'est déjà la fin, alors que ça devrait être le début pour un enfant qui arrive d'ailleurs.
Marie-Claude ? Oui, mais voilà, si je peux intervenir. Je dirais que peut-être chez Amine, c'était encore plus important, encore plus précis, parce que finalement, ce qui se dévoile au fil du temps, c'est qu'en fait, ce garçon-là, il a quelque chose à voir avec cette langue et à faire avec cette langue. Et que donc, comme vous disiez la semaine dernière, pour vous qui écrivez tout le temps et dans votre tête, etc., qui jouez avec les mots, je pense qu'effectivement, ce handicap qu'il reconnaît au début, je pense qu'il était encore plus ciblé. Parce que sinon, on peut dire, enfin, déjà, même quand on va dans des pays africains, il y a beaucoup de gens en alphabète qui ne parlent pas trop, etc. Et voilà, on compense avec les gestes, etc. Mais je pense que pour Amine, ce n'était pas suffisant. Enfin, il me semble que ça explique aussi comment l'enseignante que vous êtes aussi peut, à un moment, mieux comprendre encore la détresse de ce garçon.
Pour Amine, c'est plus crucial. C'est pour ça que je parle de tragédie. Parce que priver Amine d'une langue et priver Amine d'une voix, c'est le priver des mots et c'est le priver de l'écriture. Et c'est le désert. Et c'est le désert. Et quand je dis que c'est déjà une mort, quand on n'a plus de voix, on n'existe plus.
Tout à fait.
Alors, la question de la mort, justement, elle traverse aussi ce livre parce que le retour d'Amine est en lien avec la mort d'une de ces personnes qui ont permis qu'il devienne ce qu'il deviendra. Comment je me suis du coup posé la question, quel était vraiment le motif premier pour vous, pour écrire ce livre? La question de la transmission, de l'éducation, justement, de cet héritage qu'il reçoit, de l'écriture. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets comme ça qui traversent votre récit. Et voilà, lequel pour vous a suscité l'écriture?
Alors, il y a un peu de tout. On a tous et toutes eu un enseignant particulier qui nous a marqués. J'ai eu la chance d'en rencontrer un à l'université, à qui je dois de m'être lancée dans l'écriture, hein, puisque Nerval et Dante, c'était un peu sous son impulsion. C'est quelqu'un qui m'a guidée, qui m'a orientée, qui a été mon mentor, mon père spirituel. Donc il y a déjà cette idée de la transmission, de la reconnaissance aussi envers ces enseignants qui nous ont tant donné. Et puis nous étions dans une période en France où, hélas, le métier d'enseignant était piétiné, décrié, on oubliait les véritables valeurs de l'enseignant. Et quand on est enseignant, comme c'est le cas de ce que je fais aujourd'hui, on se sent atteint en profondeur, parce que justement on fait partie de ces enseignants qui tentent de tendre la main encore et encore, et de se dire que ben, cette main tendue, il y en a un qui la saisira. Et Amine, c'était un cri, voilà, c'était la volonté de crier face justement à l'injustice commise envers les enseignants, dans une période de pandémie qui était particulièrement dure, parce que encore une fois, on revient aux politiques, hein. Mais la seule chose qu'on n'a pas pris en considération, c'est que ces jeunes-là, c'est pas la pandémie qui les a touchés, c'est cette situation psychologiquement, cet enfermement. On s'est retrouvés, nous, enseignants, à devenir psychologues, d'abord. Et puis, il y a... C'est Amine que l'on croise hein, au cours d'une carrière et qui présente vraiment un grand défi pour un enseignant, notamment de français, parce que c'est la première des matières. Les autres matières, sans le français, c'est impossible. Et on bute très souvent contre ce dont on ne dispose pas, les outils qu'il faudrait qu'on ait, parce que la seule volonté à elle seule ne suffit pas, malheureusement. Et trop s'occuper d'un gamin peut aussi susciter des réactions négatives et ça peut aller très loin.
Tout à fait.
Marie-Claude ?
Oui, alors j'ai deux choses à dire. D'abord, la première, c'est par rapport, on parlait tout à l'heure d'Albert Camus, qui est un Africain, comme nous le savons tous, qui, si lui-même n'avait pas eu cette main tendue de la part d'un instituteur, n'aurait jamais été prix Nobel, alors qu'il était dans un milieu d'une pauvreté à tout niveau. D'accord ?
Avec une mère analphabète.
Avec une mère analphabète, absolument, qui est d'ailleurs qui a ensuite à remercier cet homme. Donc on peut, dans ce que dit Mona, on entend bien quand même, et bon, voilà, il y a un petit peu de la graine aussi de Amine, je vous invite à le lire tous, ce livre, parce qu'on comprend bien tout ce rapport à la langue, etc. Comment ça a pu être important, et voilà, et nous avons eu un prix Nobel français, grâce justement à un moment, à une main tendue d'un enseignant justement qui a compris, qui a su et qui a su aussi discerner la qualité, la valeur.
Tout à fait.
Voilà. Et puis après je vous embêterai plus, je parlerai plus.
Mais si, mais si, on est là pour ça. Mais je tiens sur vos propos, je tiens à rajouter que à cet égard, la parution en folio 2 euros de cet inédit qui regroupe les lettres échangés entre Camus et Monsieur Germain.
Ah, tout à fait, ouais.
C'est un bijou. C'est tellement un bijou que j'ai eu à cœur de l'offrir à certains de mes élèves.
Absolument.
parce que c'est d'une beauté inégalable. Et puis, c'est le petit Camus qui remercie son professeur et qui ne l'oublie jamais. Quoi. Ce petit folio de Zorro est une merveille.
2 euros en plus.
En plus, 2 euros, oui.
Voilà, et simplement, puisqu'on parlait de ça, on parlait de la langue, c'est une phrase, c'est un petit passage du livre, de votre livre, qui m'a vraiment enchantée, parce que moi, je suis admirative, on en parlait tout à l'heure hors antenne, de tous les mondes francophones, de toute la francophonie. Et Dieu sait qu'il faut se battre pour cette francophonie, parce qu'ils nous rendent notre langue, ils nous la rendent avec des richesses que nous avons oubliées ou que nous avons complètement piétinées. Et c'est simplement cette phrase, ce petit passage qui dit, c'est Amine qui parle, hein, le bambara est ma langue maternelle, la première, le français est ma langue maternelle. La seconde, mélange de langues, bouches rivées l'une sur l'autre, bouches avides et gourmandes, bouches gutturales et assonnantes, moment de grâce. Alors vous voyez un peu cette comparaison avec le baiser et vous voyez comment la langue elle peut s'entremêler et s'entre-enrichir mutuellement. Donc merci Mona pour ce bel ovage à la langue et puis ce passage qui pour moi a beaucoup de valeur et me parle énormément.
J'imagine. Je tenais à travers justement ce passage à mettre en valeur les langues, maternelles, justement. Apprendre une langue qui est étrangère pour celui qui s'y met, ce n'est pas nécessairement effacer sa propre langue, ce n'est pas effacer ses origines, c'est lui apporter un plus, c'est l'enrichir aussi.
Tout à fait, c'est-à-dire que c'est sur le socle de la langue maternelle qu'on peut s'élancer vers d'autres
Bien
langues.
Bien sûr. Voilà.
Donc, Mona Azam, vous signez Amine aux éditions La Trace, un livre publié donc en janvier 2022. Mais depuis, il y a déjà eu un autre livre paru, Nomade.
Oui, tout à
fait. Chez un autre éditeur, avec lequel vous avez beaucoup d'affinités.
Oui, qui m'a déjà publié en poésie avec Le Sablier des mots, un recueil paru en mars 2020, pendant le confinement, voilà, tout est dit. Et donc, qui a tenu à publier ce texte pour lequel il a eu un coup de cœur, et que je tiens à remercier pour sa confiance d'ailleurs. Et c'est Nomade, effectivement, qui est un roman qui se voulait un hommage à nos jeunes partis au Mali, et qui ont donné de leur vie dans le cadre de leur mission au Mali, mais c'est surtout et avant tout un hommage au désert et à ces peuples nomades du désert qui sont pratiquement en voie de disparition, qui ont perdu leur culture et dont on a du mal à retrouver la trace aujourd'hui. Et c'est donc Adama, hein, le personnage principal, qui fait partie de cette dernière tribu de Touareg et qui va se retrouver déchiré entre, d'une part, l'importance de ses origines et des valeurs de sa tribu qui font ce qu'il est, et donc sa relation particulière au désert, et d'autre part, le monde autour, la mondialisation, l'ouverture aux autres mondes, parce que entre-temps, il y a eu Acmi qui est intervenu et qui est venu tout détruire. Et donc Adama va être perpétuellement déchiré entre ces deux forces, pour finir par comprendre finalement, grâce à l'écriture, encore une fois, que le désert, finalement, il peut être l'union des deux, et que c'est en ne reniant pas ce que l'on est que l'on peut avancer dans le monde aujourd'hui. Donc c'est un texte qui me tient à cœur, parce que le désert, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Celui qui n'a jamais vu le désert n'a jamais rien vu, en fait, parce qu'on comprend à quel point nous ne sommes rien. On gagne en humilité, on gagne en modestie, et puis on comprend que la grandeur, elle est ailleurs, quoi. Elle est dans ces milliers de grains de sable. Et la couverture est justement très belle, parce qu'elle évoque justement le Mali. Et elle scintille comme les grains de sable du désert, quoi. C'est un véritable beau travail d'édition, et je remercie l'éditeur. Vibration édition, donc, qui fête ses 5 ans et qui les a fêtés le 8 mai, il n'y a pas longtemps. Et j'invite donc les lecteurs passionnés d'Afrique et du désert et de littérature à plonger dans Nomades. Je crois que nous sommes tous nomades quelque part.
Alors justement, ma petite touche perso, c'est que j'ai gardé un souvenir impérissable, d'ailleurs j'ai écrit un poème à la suite de ça, de ma traversée, en fait, de la première, du premier vol qui m'a emmené jusqu'au Burkina Faso, et de cette traversée du désert aérienne. Mais c'est quelque chose de, qui m'a complètement... On a beau le savoir, moi, c'est vrai que je, vraiment, pour moi, le désert, ça a toujours été quelque chose d'important. D'ailleurs, je préfère ça à des paysages très verts. C'est pour dire, c'est pas pour rien que je vais dans un pays sahélien que j'aime tant. Mais je dois dire que cette vision... d'ailleurs, j'ai écrit « Désert d'un monde mort », c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'à un moment, la mer a complètement, l'eau a complètement déserté et tout est resté en l'état, c'est-à-dire que vraiment, les moindres plis, c'est absolument, c'est d'une beauté extraordinaire, vue par air aussi. Hein.
Tout à fait.
Franchement, donc je partage, et voilà, et d'y être dedans ou d'être, c'est quelque chose de fabuleux. Quoi.
Tout à fait. Alors, pour moi, c'était un défi parce que longtemps, le désert, le Sahara, j'avais 12 ans. Donc, et longtemps, je me suis dit que c'était indicible, en fait. Mm-hmm, qu'il n'y avait pas de mots pour
absolument
dire le désert. Et puis, Nomade, finalement, m'a permis finalement de trouver les mots. Ça a été un long travail. Je voulais, à ma manière humble, rendre hommage à ces peuples, mais aussi à ce désert qui restera encore longtemps après nous.
D'ailleurs, quand vous parliez du fait qu'ils n'ont pas de pays, bon, y en a pas mal qui viennent, par exemple, au Burkina, dans ces pays sahéliens, ils font souvent du fer forgé, ils font des très jolies choses. À un moment, une fois même, j'avais été chargée de ramener pour leur vendre, mais c'était très lourd. Hein. Et je me souviens avoir parlé, parce que bon, j'ai eu à m'occuper un petit peu d'une petite famille, d'un bébé, etc. Et ce monsieur, qui était devenu un ami, quoi, me disait, mais tu sais, nous, on n'a pas de pays, notre pays, nous, c'est nos troupeaux.
C'est vrai.
Et ça m'avait donné pareil, ça m'avait créé cet instantané où je m'étais dit, ben oui, là pour l'instant il est ici, à Bobo, mais de toute façon demain il va repartir et il va retrouver, il travaillait pour s'acheter des bêtes, du cheptel quoi, voilà, donc pas de pays. Donc effectivement ça rejoint complètement.
Voilà, donc Adama, parce que la figure de la mère hein, est au cœur du roman, puisque c'est la mère qui décide de tout. Et donc, La mère, la maman. La mère d'Adama a voulu pour lui qu'il aille à l'école, qu'il fasse des études, pour qu'il construise sa propre vie. Et donc Adama va vivre ce moment où elle l'envoie à l'école comme un déchirement parce qu'il quitte le désert. Mais en fait, il y apprend qu'il peut, pour cela, grâce aux mots, perpétuer la mémoire du désert. Et il va inventer le nomadisme de l'écriture. Et de manière paradoxale, quand il va aboutir et faire aboutir les rêves de sa mère et avoir ses diplômes, et, la mère le rappelle pour qu'il prenne en charge la tribu. Et là, il faut qu'il renonce à tout ce pourquoi elle l'avait éloigné. Et donc, on a tout le long de ce roman, en fait, on a et les traditions, et les coutumes, et la mémoire aussi ancestrale de ces populations du désert, et ce Adama qui, encore une fois, va tout dépasser grâce à l'écriture.
Ça, c'est beau. C'est un beau programme, là.
Voilà. Je vous invite à plonger dans Nomades.
On va prendre des leçons.
Alors, on a cité très rapidement vos 6 ou 7 livres même. Est-ce que on a parlé un peu plus longuement d'Amine et de Nomade. Est-ce qu'il y a un autre parmi ces livres plus anciens sur lequel vous voudriez peut-être vous arrêter un peu plus ou pas?
Un roman qui me tient à cœur, mais j'en avais déjà parlé ici même à l'antenne avec Nathalie Bouly, que je salue en passant. C'est Ulysse Adi, qui lui aussi hein, est un roman à travers lequel j'ai voulu justement éveiller certaines consciences. Et c'est le roman de la rencontre improbable entre Ulysse, que je transforme en griot. Hein, ce n'est plus le Ulysse de Homère, c'est le griot, puisqu'il va se faire le griot de Maïmouna, de l'histoire de Maïmouna, une petite malienne qu'il va sauver suite au naufrage d'un bateau aux abords de Gibraltar. Alors Ulysse, C'est un Parisien hein, qui est dans le monde de la finance et qui, un beau matin, décide de tout arrêter et d'aller se réfugier dans un phare et devenir gardien de phare au milieu de Gibraltar pour écrire son premier roman. Et finalement, il n'écrira pas ce premier roman, il ne réussira, et je dis, et tant mieux, qu'à écrire un dit, et qui est le dit de la vie de Maïmouna. Mmh. Donc c'est un roman qui passe très très bien auprès des jeunes, que j'ai eu l'occasion de présenter auprès de classes de collégiens et de lycéens. Et c'est impressionnant comment les jeunes sont sensibles à ce problème de la migration. Et le but, c'était aussi de dire, cet étranger qui arrive, il n'est pas une menace. Il est là, on est dans le devoir de l'accueillir au nom de l'humanité. Et puis, il est là pour nous apporter aussi beaucoup de choses.
Alors pour nous enrichir, finalement.
Que de richesses.
Alors, quand on arrive auprès d'une maison d'édition, comment est-ce que c'est accueilli, ces thématiques de l'Afrique, de la migration, de l'écriture aussi? Parce que je constate qu'elle est présente partout, cette thématique-là. Elle est présente aussi, bien sûr, chez Amine. Hein, ça va, lui-même devient écrivain,
bien
de
sûr. Malgré.
Donc, comment est-ce que c'est accueilli? Comment ça se passe dans ces réseaux éditoriaux quand vous venez avec vos projets humaniste.
Je crois que ce soit les éditions La Trace ou que ce soit Vibration Édition, ce sont deux maisons d'édition à caractère humain, d'abord. Nous avons des relations très fortes et ces thématiques-là leur tiennent à cœur. La preuve, ils portent ses projets, ils portent ses romans. Et jusque-là, ils m'ont accordé leur confiance. C'est vrai que ce sont des sujets qui, parfois, peuvent déplaire. Ben oui, bien sûr.
Ou être mais une niche, tout
voilà.
simplement.
Ouais. Mais jusque-là, ça s'est très, très bien passé. Mmh. Et je crois que les deux éditeurs ont cette sensibilité, justement, humaniste. Et qui fait que à chaque fois ils retiennent mes textes. Aux éditions La Trace, j'ai pratiquement tout publié hein, jusque là, et c'est une relation. Voilà, on se suit à La Trace, et puis on essaye de laisser une trace quelque part.
C'est déjà un bon programme.
Voilà, et Vibration Édition aussi, hein, qui il est lui-même poète, hein, donc amoureux des mots. Nous avons en partage, nous avons connu l'Afrique. Et nous avons connu Beyrouth tous les deux, donc cela crée des liens forcément. Je crois qu'entre un éditeur et un auteur, il faut surtout la confiance et il faut ce respect mutuel de présenter un texte, c'est se livrer, c'est donner aussi une partie de soi et ce n'est pas à n'importe qui qu'on peut se livrer.
Absolument,
tout à fait.
Marie-Claude, un commentaire.
Moi, je dois dire que là, je suis un peu en train de planer. J'hésite entre la latérite rouge du Burkina, mais aussi avec le désert. Parce que franchement, oui, les couleurs et puis les sonorités. Et puis, c'est vrai que l'Afrique, ça vous marque à tout jamais. Quoi, hein. C'est vraiment quelque chose. Enfin, comme on en parlait tout à l'heure aussi en antenne, c'est vrai que l'Afrique, où vraiment vous en sortez pas intact, ou alors vraiment, ça vous marque d'une façon indélébile. Enfin, ça a été mon cas, visiblement, le cas de Mouna aussi. Ou alors, quelque part, soit vous fuyez, soit vous vivez complètement à l'écart de tout, dans un confort européen. On n'échappe pas à l'empreinte de l'Afrique.
Je ne pense pas.
Voilà, et c'est ça qu'on retrouve aussi, entre autres, dans Amine, puisqu'on n'a pas encore lu le suivant. Et c'est ça qu'on retrouve dans vos propos, vraiment, ce partage qu'on peut avoir de ces émotions, de ces vibrations et de cette passion, je dirais. Voilà, une passion africaine, quoi. Hein. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Azam.
Merci à vous.
En tout cas, on ne vous lâche plus. On vous retient probablement pour le Gazette Café, non?
Ah oui.
Moi, je pense que c'est indispensable.
À voir quand, on vous le dira, on le communiquera.
Voilà. Vous avez choisi, Mouna Azam, de terminer cette émission avec le générique du film Timbuktu.
Ah oui,
un commentaire sur ce choix musical.
Ce film est grandiose, riche en leçons d'humanité. On passe du rire aux larmes. Je pense à la célébrissime scène de foot C'est un film, pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, qui est à voir absolument. Mmh. C'est une merveille. Mmh. Et sinon, à revoir, personnellement, je l'ai revu au moins 10 fois. Mmh. Je le fais passer dans mes classes. Mes élèves adorent. Parce que, en même temps, il contribue à lever tous ces a priori qu'on peut avoir envers le continent africain. Mmh. Ce film est une merveille, tout simplement. Mmh. Et cette musique est magnifique.
Ah oui, c'est superbe, oui.
Le générique de Timbuktu pour conclure nos deux émissions avec vous, Mona Azam. Au revoir et merci. Marie-Claude, on se retrouve tout bientôt, nous.
Pour l'Afrique, je crois.
Pour l'Afrique.
Voilà.
Et puis merci donc, à Yann pour la générique.
N'oubliez pas les podcasts aussi.
Je parle aussi du podcast radiofmplus.org et on se retrouve la semaine prochaine.
À très bientôt.
Yann. Au revoir.
Mbale mwalu tomboktu yene faso ye Ngo yene faso ye Sinilu tomboktu yene faso ye Ngo de minzenu de kase lala Ngo tomboktu de minzenu be hamina Kamale nombe kasi la Badinya, badinya duwe Tombaktuwe Sinjiya, sinjiya duwe Malibaye Yankalu, yane fazoe Moyenne façon et malemal. Mou kamale nou maliba et ne fasoye. Golube kasila. Kounieta joro de bébé minsenon. Kousini nyesi. Joro de bauna Maliba Haube kasi la mona De minsenume kasi la mona Haube kasi la mona Kamale nume kasi la Maliba Demi zenon ne kasila emuna.